Je vous présente Grégoire Moutel qui est parmi nous pour modérer cette session. Et Grégoire est interniste, travaille à la PAS du groupe hospitalier Georges Pompidou et Corentin Celleton, enfin, c'est-à-dire à Corentin Celleton. Et il est également universitaire, il travaille avec le professeur Christian Hervé au laboratoire d'éthique médicale à Paris Descartes.
Je ne suis pas clair, l'esprit c'était de laisser la parole à la salle, mais sans être bavard, je voulais juste vous commenter, vous donner mon point de vue sur les quelques interventions, d'abord qui m'ont toutes été droites au cœur, et pour montrer que chacun a globalement été dans le sens d'une réflexion partagée, je voulais vous citer une première vignette, un étudiant en médecine qui me dit hier, quand je lui dis que je venais ici, je vois les propos de Régis Aubry sur la formation, il est étonnant. Dans certaines facultés en France, on nous fait faire de la médecine humanitaire, et dès qu'on nous parle de la médecine humanitaire, on nous parle du droit d'accès aux soins des personnes dans d'autres pays que le nôtre. Et donc, il me dit, mais la médecine humanitaire, est-ce que ce n'est pas une question, une problématique interne à notre pays ? Voilà, c'est ce qu'il vous dit. Et puis, dans le même temps, il me sort un cours où effectivement, celui qu'on évoquait tout à l'heure, Christian Hervé, leur a fait un cours sur l'humanisme. Et puis, ils ont un autre cours sur les dimensions hippocratiques. Et donc, comme nos étudiants sont loin d'être sots, il me dit, mais est-ce que le problème n'est pas là ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas dans un système de soins qui a tout simplement dévié de ses fondamentaux ? De temps en temps, revenir aux fondamentaux. Donc, ça fait du bien. Et donc, effectivement, et ça avait été dit par Xavier Emmanuel dans un de ses écrits, il avait dit, c'est souvent en regardant les marges d'une société qu'on en voit les dérives globales. Et donc finalement, les populations dont on parle sont certainement le reflet et le miroir d'un système global qui a dévié, et ce qui donc nous inviterait non pas à nous adresser à cette salle qui est déjà acquise à la cause, mais nous adresser plus largement à la société et aux choix politiques qui nous sont offerts ou imposés. Deuxième petite réflexion, après je vous passe la parole, c'est histoire de tenir mon rôle. Il y a des mots dans les choses dont on a débattu que je veux vous donner comme ça en offrande. Bienfaisance, un des fondements de l'éthique, certes, nord-américaine. Alors, par les temps qui courent, on a du mal à partager, mais il faut savoir partager. Néanmoins, c'est un mot qui a du sens. Et quand on a entendu souci de l'autre, assistance, voilà, se rappeler tout ça. Justice, et puisque Edgar Morin a été cité, ou barbarie, je crois qu'il y a des mots à poser, et autonomie, et quelle est la notion d'autonomie des personnes quand elles n'ont pas la qualité corporelle et psychique pour la mise en œuvre. Un des premiers éléments de la perte d'autonomie, et là je cite Axel Kahn, est bien de dire qu'il faut que la santé en soit un des piliers, parce que l'on n'exercera son autonomie que si on a la santé physique et psychique. Tout ça pour vous dire que vous êtes bien dans le vif du sujet, heureusement, sinon on serait trompé de journée. Mais aussi pour vous rappeler que par rapport à ce qu'a dit Régis, approche normée ou approche normative, donc par ce fait excluante, de manière un peu provocatrice, je dirais si l'approche normative exclut ou n'exclurait que 1 ou 2% des populations, bien sûr qu'il faudrait que la réflexion éthique porte sur ces 1 ou 2%. Mais il faut savoir de quel chiffre on parle. Aujourd'hui, les populations en difficulté d'accès aux soins sont dans nos bassins de vie aux alentours de 15 à 20% de la population. Donc, la question qui se pose, c'est n'est-on pas en train, là, effectivement, de ne plus sur un débat sur la norme, avec quelques déviances, mais la refonte totale des valeurs qui doivent guider nos choix. Voilà les quelques réflexions que je vous livre, et maintenant, on a soif de vos questions.
Éléments de vulnérabilité, de pouvoir avoir accès à des soins des soins de qualité et avec la même qualité que ceux qui n'ont pas cette difficulté, si en fait les gens qui ont une difficulté. Voilà, donc ça c'est ma première réflexion, et il me semble que introduire la notion de précarité dans les prises de décision médicale me paraît quand même très dangereux. Très dangereux, si ce n'est pour dire qu'effectivement il y a des éléments de précarité, donc si on veut avoir des, si on veut pouvoir avoir des soins de qualité nécessaires pour ces patients, il faut adapter le dispositif aux soins et non pas adapter les personnes. Donc ce que je veux dire, c'est que nous on fait aussi des RCP pour des patients, c'est pas pour des cancers, mais c'est par exemple pour des patients toxicomanes qui sont en domicile fixe et qui arrivent à coucher à l'hôpital. Et ces RCP, quand on les fait, l'idée c'est d'évaluer, par exemple, pour ces patientes, la relation mère-enfant et de tout mettre en place, si cette relation mère-enfant est bonne, pour qu'elle puisse exister et qu'il n'y ait pas de séparation. Donc, il me semble très important de vraiment réfléchir à ces données. Et aussi d'y inclure dans la prise de décision l'information et l'évaluation. Ce que je n'ai pas ressenti dans votre information, et j'aimerais savoir si vous avez pu faire cette information avec les patients lorsque vous avez fait ce choix.
Bon, je vais juste répondre quand même rapidement. Le choix éclairé, oui, bien sûr, on n'a pas eu le temps de tout citer parce que ça aurait été trop long. Évidemment, l'idée, c'est de prendre en compte, et d'ailleurs, c'est un des éléments de la grille. Et justement, on a décidé de le mettre dans la grille parce que parfois, ça pouvait justement, chez certains confrères, être oublié. Plutôt dans l'idée, voilà, c'est un organe malade, un protocole, etc. Et on se rend compte, particulièrement quand il y a la barrière de la langue, je rejoins Aziz, que il se trouve que parfois on a oublié d'expliquer clairement la problématique. Donc la personne ne peut pas exercer, comme disait Grégoire, son autonomie. Donc évidemment c'est très important. Et la deuxième chose, peut-être qu'on a mal expliqué, ce n'est pas traiter les patients différemment parce qu'ils sont en situation précaire, c'est au contraire, c'est prendre en compte la situation de la personne pour la traiter au mieux et se servir de ces situations qui sont comme disait Marc Guerrier, des crash tests, c'est-à-dire vraiment des situations extrêmes pour réfléchir pour tout le monde, en fait. Et c'est au contraire, c'est retourner ce modèle pour réfléchir de la même façon pour tout le monde et questionner l'intérêt de la personne. On a beaucoup de situations de personnes d'Afrique subsaharienne qui arrivent avec des cancers du sein métastatiques en espérant guérir. Et finalement, on va les maintenir dans un dispositif de énième ligne de chimiothérapie avec les effets secondaires, les difficultés pour venir faire les traitements, le transport, parce que c'est des gens qui habitent souvent en banlieue lointaine. Enfin, c'est tous ces éléments-là qu'on va prendre en compte. Et finalement, ce qui se passe dans ces situations-là, l'issue, elle est toujours défavorable. Et les patients vont finir leur vie au mieux dans une unité de soins de soins palliatifs en lointaine banlieue et vraiment dans un vrai isolement complet autour de la fin de vie, soit au pire même dans la rue, comme on a vu des situations comme ça. Donc c'est pas du tout des soins particuliers à la petite semaine entre guillemets, c'est au contraire assurer des soins de qualité à tous, mais adaptés à la situation.
Pour compléter, je dois dire que pour cette personne-là, comme toutes les personnes qui sont passées dans les RCP médico-sociales et éthiques, je veux dire, elles ont accès au même plateau technique que tous les patients qui s'adressent à Saint-Louis. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte tous les aspects et que cette personne, justement, dans le cadre de son choix éclairé, grâce au traducteur qui a été tout le temps présent, et au début elle venait vraiment avec l'idée guérissez-moi, et petit à petit en lui expliquant, en lui permettant de bien comprendre quelle était la situation, c'est elle qui a fait le choix de repartir dans son pays en sachant que l'issue n'était pas bonne, hein, que son pronostic vital il n'était pas bon, ce qui lui avait déjà été dit dans le cadre des soins qu'elle avait au Ghana, mais elle a fait le choix de repartir pour mourir entourée des siens et non pas dans le dénuement le plus total dans lequel elle aurait été sur Paris en région parisienne. Donc c'est un travail qui s'est fait sur plusieurs semaines, bien évidemment, mais qui lui a permis de faire un choix. Sinon, bien évidemment, si elle n'avait pas voulu repartir, on l'aurait gardée parmi les patients en situation irrégulière que l'on a dans tous les services de Saint-Louis et qui ont exactement les mêmes soins que les patients assurés sociaux. On l'aurait gardée. Mais ce travail-là a permis justement de faire émerger son choix de retour dans des conditions correctes.
Oui, bonjour, je suis le docteur Le Ternier du SAMU social de Paris et donc de la direction médicale du SAMU social de Paris. Donc c'est la première fois que j'assiste au colloque, parce que j'étais pas là l'année dernière, et je voulais souligner les similitudes qu'il y a dans notre pratique, même si on ne s'adresse pas aux mêmes patients, à la même patientèle a priori. Notamment, on peut reparler de ces RCP que nous appelons des RMS, des réunions médico-sociales, et qui sont institués chez nous depuis plusieurs années, puisque on a une pratique, on a plusieurs sites, et donc on ne s'adresse pas toujours à la même population. On a cette pratique, ce qu'on appelait à l'époque, Xavier Emmanuelli appelait ça une synergie, une prise en charge, une synergie médico-sociale, qu'on a sur des sites ambulatoires comme vous. Donc il y a cette prise en charge multidisciplinaire sur des sites ambulatoires qu'on appelle des CHU, des centres d'hébergement d'urgence, où les patients sont juste hébergés la nuit et ont droit à des consultations. Et nous avons ce qu'on appelle les LHSS, les anciens lits infirmiers, où là on a vraiment développé ce principe de RMS et ce principe aussi avec un médecin référent, et qui permet d'avoir, je voulais rejoindre ce que disait le docteur Georges, c'est-à-dire qui permet d'avoir vraiment un avis de toute l'équipe, donc assistants sociaux, mais aussi comme les patients sont sur site, ils ont des lits, ils sont là 24 heures sur 24, on a aussi l'avis de l'équipe soignante, enfin des infirmiers, des aides-soignants, des gens qui voient vivre ces gens, et ça nous permet pour nos équipes de prendre des décisions plus faciles, parce que par rapport aux patients que vous voyez, nous avons un énorme problème de dépendance des patients qui ont évolué depuis la création du SAMU social, et un gros problème de dépendance et par rapport à la patiente dont vous parliez, qui ne peuvent pas prendre leur avis tout seul. Donc nous, on a élargi ces RMS. Nous n'avons pas d'anthropologue, nous n'avons pas de grille, mais nous avons un partenariat avec les psychiatres et avec les pôles de secteur, et aussi avec le réseau psychiatrie et précarité, afin de pouvoir faciliter nos décisions. Et je pense qu'on va aussi ouvrir ça, enfin essayer d'ouvrir ça à des partenariats avec des neurologues, puisqu'on on a de plus en plus de mal à prendre ces décisions. Et je voulais juste spécifier donc en fait nos similitudes et le fait que parfois on se connaisse pas très bien, et que je trouvais intéressant de voir ces similitudes de pratique. D'autre part, juste pour finir, quand on parlait de la dépendance, au SAMU social, il a été créé une structure expérimentale depuis janvier 2011 pour ces problèmes de dépendance qui devient de plus en plus important pour nos patients. Et nous avons donc ouvert une structure de lits d'accueil médicalisés. Voilà. Donc, pour des pathologies de pronostic sombre, avec des situations sociales bloquées. Voilà. Donc, le partenariat avec les PASS, puisqu'on est là pour les PASS, le partenariat avec les PASS, on en a déjà quelques-uns. Il n'est pas toujours très, très bien établi. Et nous avons fait une étude récente de SAMU social pour voir un peu comment était perçue la collaboration et si les médecins connaissaient tout. Voilà, ça avait bien fonctionné si on pouvait augmenter un peu la connaissance mutuelle. Et donc on a fait une étude récente et la connaissance mutuelle n'est pas, ça pourrait être amélioré. Voilà.
C'est pas très cher la radiothérapie.
Non, mais oui, effectivement, mais si on fait.
Déjà, tout simplement, dans le cadre du groupe des RCP, on y a intégré le directeur financier, ce qui est quand même une réponse fort importante, puisque il permet que ses patients soient pris en charge au même titre que les autres. Et c'est une créance irrecouvrable pour l'hôpital, mais c'est un accès aux soins, un vrai accès aux soins.
Parce que c'est vrai que ça dépend des endroits. C'est vrai qu'à Saint-Louis et dans le groupe hospitalier, on a la chance d'avoir une direction qui voit les choses un peu plus de façon globale. Et là, la réalité, c'est que si on ne fait pas ça, ça sera encore pire et ça sera encore plus cher. Donc il vaut mieux payer peut-être là... D'ailleurs, ce n'est pas très cher. Hein, c'était 500 €, quelque chose comme ça, là, les séances de radiothérapie, en l'occurrence, que... à défaut d'une hospitalisation, parce qu'après le risque c'est l'épidurite, la compression médulaire, et alors là ça sera vraiment cette fois vraiment un problème financier. Donc on est obligé d'aller aussi dans cette réflexion là avec localement.
C'est l'hôpital, ça fait partie des créances irrecouvrables de l'hôpital. C'est, vous en avez tous dans tous vos hôpitaux. Hein. C'est la société, c'est... voilà. Mais au lieu de dire ça coûte 500 € et c'est une créance, effectivement, l'idée du travail qui se fait en ambulatoire, c'est d'éviter certaines hospitalisations inutiles, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir attendu que la personne se soit dégradée. Après, elle est hospitalisée et après, il est beaucoup plus difficile de lui trouver une orientation et une sortie parce que n'ayant pas de prise en charge, on ne pourra pas l'orienter en soins de suite. Et donc, c'est du temps hospitalier qui coûte, qui rapporte rien.
C'est quand même avant tout du soin. Enfin,
on est là pour l'accès aux soins.
Si vous voulez, on va garder les questions pour essayer de faire une synthèse pour que tout le monde puisse poser les questions. On a bien compris. Il y a des fois, vous savez, dans le champ d'éthique, puisque M. Sicard est au premier rang, j'ai appris de ses écrits que des fois on posait des questions qu'il n'y avait pas toujours de réponse.
Merci Grégoire. Bernard Ecosi, deuxième. C'est justement pas des réponses que j'attends, simplement deux réactions à ce que j'ai entendu, deux ou trois réactions rapides à ce que j'ai entendu là. PASS et médecine humanitaire. Je pense que vous savez tous, vous rappelez que les PASS sont inscrites quand même dans la mise en application d'une loi. Et donc c'est un dispositif législatif. C'est pas de l'action humaine.
L'action humanitaire.
C'est une vraie question, mais on n'oublie pas quand même qu'il y a une loi de lutte contre les exclusions et qu'on s'est inscrit là-dedans. Maintenant, je vais un peu plus loin et je suis ce que dit Régis. On est non seulement dans la gestion des contraintes et des contraires, mais on est dans la gestion des contradictions et des paradoxes. Deux exemples très simples. On a créé à Créteil en 1987 un des premiers centres de consultation pour les publics vulnérables, qui s'appelle Créteil Solidarité, 87, 24 ans. On a fait notre 25e assemblée générale avant-hier soir. on continue à être financé sur des fonds publics. Quand on a créé l'association dans les statuts, on avait mis qu'on se crée pour 2 ans et que notre volonté, c'était de disparaître le plus possible. Et tous les 2 ans, on a renouvelé, au bout de 3-4 ans, on a dit, on se met à durer indéterminément. Ça, c'est le premier clin d'œil comme ça, mais quand même. Deuxième question qui n'est pas du tout un clin d'œil, c'est que ce soit les PAS, que ce soit le financement public qui arrive à créer des solidarités, on était les premiers à demander des financements publics à l'époque. On se posait à Médecins du Monde qui disait non, il ne faut pas aller chercher l'argent des services de deuxième question, c'est qu'on est quand même, de fait, assimilé à la voiture balai d'un pouvoir politique qui crée les conditions d'exclusion et qui nous finance pour ramasser les dégâts et réparer les dégâts. Et un tout petit clin d'œil, qui est pas vraiment un clin d'œil, qui est, on rit un peu de travers aujourd'hui, l'histoire des 30 euros. Nous, on se pose la question. On a la chance d'avoir un budget tout à fait convenable et d'avoir une passe interne qui est celle de l'hôpital, dont je suis responsable, une passe externe, de fait, associative, qui, grâce au NICAP, va être attachée à la passe interne. Donc, on a un dispositif qui fonctionne bien, il y a un réseau derrière, ça marche pas mal. On a un peu de moyens, s'il vous plaît. On s'en plaint pas, mais on peut faire des choses. Et notamment, on a fait les comptes, on peut très bien payer les 30 euros pour donner droit aux gens qui viennent consulter chez nous. On a en gros une filiative de 7 à 800 patients par an. 30 fois par 700, ça fait 21 000 euros. C'est tout à fait intégrable dans notre budget. Quand ils arrivent, on paye 30 euros. Bingo, et on les fait rentrer. Et on demande ce financement, et bien au pouvoir public, à l'inverse, nous financerons. C'est complètement schizophrénie encore. À un moment donné, c'est pour ça qu'on a dit non, c'est un gars qui n'est qu'à moitié. Donc, où on s'arrête? Quand on s'arrête, et non seulement c'est du contraire à la complexité, c'est le paradoxe intégral. Mais tant qu'il y a on s'apprécie, on répond aux besoins de personnes en grande difficulté qui n'ont pas d'autre lieu d'accès aux soins. Il n'y a plus grand chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je n'ai pas la réponse et on continue nous à fonctionner. Hein, mais on se, de temps en temps, on se casse la tête quand même. Merci.
Excusez-moi, c'est encore la passe de Dreux du 28. Donc là, depuis ce matin, d'une part, je suis ravie d'être là et de faire vraiment le constat. Et à la fois, une grande et énorme frustration. Parce que c'est vrai qu'on réalise qu'en fonction des villes, en fonction des enjeux politiques, on ne dispose absolument pas tous des mêmes moyens et des possibilités pour permettre l'accès aux soins aux personnes en grande précarité. Et là, aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qu'on fait à part s'asseoir là, écouter, observer, être frustré et rentrer chez soi, reprendre son poste et arriver au même constat. Donc là, aujourd'hui, voilà, comment on fait pour que justement l'accès aux soins ne soit pas uniquement une histoire de couleur politique, de volonté personnelle, et que ce soit vraiment quelque chose de réel, parce que la PASS a vraiment une légitimité, une nécessité. Et là, aujourd'hui, on en est au même point, on débat. Donc la question des 30 euros, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, de central. Et c'est vrai que de ma petite place, on est à 50% uniquement pour toute la PASS et pour toute la population de Dreux, environ 33 000 habitants, 35 000. Et je suis à 50% avec d'autres services d'addictologie, de gastro-entéro. Donc j'essaie de ramer un petit peu. On a essayé d'externaliser la PASS en allant vers l'épicerie sociale pour essayer aussi de cibler des personnes, sauf qu'il y a des choses à faire, mais on n'a pas forcément les moyens et le temps, on n'a pas les infrastructures, on n'a pas les associations. Donc du coup, on assiste impuissant à ce qui est possible de faire, mais qu'on ne peut pas mettre en place. Et donc aujourd'hui, on s'est dit, voilà, moi j'avais même envisagé de demander à l'hôpital de se mettre à contribution après avoir épuisé toutes les autres solutions pour payer les 30 euros. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça serait même contre la loi de trouver d'autres moyens pour faire payer ces 30 euros que de ponctionner celui qui n'a pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les moyens? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour essayer au moins de... Voilà.
Juste un petit élément de réponse, c'est-à-dire quand on est seul, on est toujours moins fort. Ça a été dit dans le champ de l'éthique, c'est vrai dans le champ du politique. Donc je ne suis pas là pour faire de la publicité pour l'association que Claire Georges a mis en place, mais quand même c'est une réponse indirecte. C'est-à-dire, on sait dans tous les domaines, puisque Régis Aubry est là, pour en témoigner dans le soin palliatif, dès que les gens se mettent ensemble pour réfléchir, produisent des savoirs, produisent des données, il y a des moments où face au pouvoir public, on peut apporter des solutions. Donc c'est un peu pour vous donner un peu de baume au cœur, je vais vous donner un exemple sur la chimiothérapie dont parlait. J'ai eu la chance de travailler sur le plan cancer 2 avec le professeur Grünfeld. La question que vous évoquez a été posée indirectement. On est dans un pays où aujourd'hui, on sait qu'il y a des chimiothérapies, et ça rejoint la question des palliatifs d'ailleurs, de 9e, 10e, 11e ligne, dont on sait médicalement qu'elles ne servent pas à grand-chose. D'accord ? Et à côté de ça, on a des populations fragilisées, précaires, auxquelles on ne pose pas ou on ne permet pas d'accéder à la chimiothérapie. Quand je vous disais qu'une question aux marges posait la question globale, c'est des choses autour du contrat social, du refondement de certaines valeurs. Ça prend du temps. Si en France, demain, en étant un peu utopiste, pour vous donner baume au cœur, on faisait un contrat social en disant dans telle et telle pathologie, les chimiothérapies seraient limitées pour tout le monde. Vous voyez aussi le principe d'équité qui revient par là, à 5, parce qu'au-delà, on a montré que ce n'était pas efficace. Eh bien, tout le monde en aurait. Il serait plus près. C'est des propositions, vous voyez, de ce type. C'est pour vous dire qu'on a tous des souffrances intérieures au quotidien face à nos patients. Et heureusement, c'est ce qui nous permet d'être moteurs et d'avancer. Si on n'avait pas ces souffrances, on ne serait pas dans le combat. Efficace. Dans le combat, on essaiera de construire des réponses. Voilà. C'est aussi un débat démocratique, ce qu'on est en train de faire là.
Je peux peut-être ajouter juste un petit complément de... Non pas de réponse, parce que comme il a été dit, je pense que celui qui connaît la réponse aux questions que vous posez n'est pas né, à mon sens. Hein. Mais, à mon sens, ce qui me semble important, c'est de bien situer les questions qui sont posées, non pas comme des questions de santé, mais des questions politiques. On est clairement dans une matérialisation de ce qu'une démocratie doit démontrer pour qu'on puisse la qualifier de démocratie. Une démocratie sonore quand elle est capable de s'occuper des plus vulnérables. Donc faisons de cette question une question politique, me semble-t-il, au bon sens du terme, parce que peut-être, et je dis un gros mot pour certains, mais le mot politique a pour moi un sens éthique. Hein, il s'agit d'amener à la conscience de personnes et de décideurs en particulier qui essaient, en luttant fort, de ne pas regarder, quitte à être dans des attitudes schizophréniques, comme tu viens de les décrire, cette question-là, il faut en faire une question politique. Il y a peut-être un levier, me semble-t-il, c'est celui des agences régionales de santé, et c'est celui des conférences régionales de santé, et de l'autonomie. Je pense qu'il faut un peu investir ces instances, nouvellement créées ou issues d'autres instances, mais il faut que nous nous armions d'un autre outil, à mon avis, pour peut-être imaginer que les choses avancent. Je l'ai vécu dans le domaine des soins palliatifs. Il faut 20 ans pour qu'une idée suive aboutisse à une reconnaissance politique, en quelque sorte. Hein. Et donc, il faut un autre outil qui est la patience. D'accord ? Donc, ça, je vous donne vraiment des réponses, quoi.
Bonjour. Moi, je suis infirmière à l'hôpital du Calais et je soigne à 95% les clandestins. Je ne sais pas si sont confrontés à ça. Donc, à Calais, pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas la situation, voilà, il y a entre 200 et jusqu'à 1000 migrants qui essayent de passer en Angleterre également et qui sont pourchassés en dehors du monde, venus par le CRS, qui vivent dans les squats, qui n'ont accès ni à des douches publiques ni à des toilettes publiques. Et qui du coup ne sont plus des humains mais des sous-vêtés avec tout. Du coup, en permanence, l'impossibilité de les héberger, l'impossibilité de les faire accéder à des convalescences, que ce soit des femmes enceintes, que ce soit un enfant. Et c'est. Je suis la seule infirmière de cette consultation, on peut dire des jours avec des médecins, une quinzaine de médecins qui interviennent. Une fois par mois, donc je suis avec un interprète, puisque je crois que je suis la seule ici à avoir un interprète avec moi, qui est afghan. Et donc voilà, et je voulais, donc si d'autres
en fait à cette problématique-là, je reconnais d'en discuter. Et je voulais aussi savoir, parce que j'ai l'impression que la... J'ai cette impression qu'une passe doit représenter l'hôpital et doit fonctionner, qui pour moi est indigne. Et je voulais savoir dans quelle mesure la passe a droit au sein de l'hôpital et à l'extérieur de l'hôpital, je veux dire. Voilà. Le traitement de ces gens-là.
Mais je crois qu'aujourd'hui on est tous là pour ça, puisque enfin nous on a reçu beaucoup d'Afghans aussi à la passe de Saint-Louis. Il y en a beaucoup à la passe d'Hermato qui est à Saint-Louis. Il y a eu certains jours on avait 100 Afghans. On a organisé des consultations. On a travaillé avec Médecins sans frontières aussi pour leur donner des protocoles pour des choses très simples. De soins qui étaient fondamentaux pour ces personnes. Mais je veux dire, si on est là aujourd'hui, c'est bien pour ça. Et moi, je voulais rebondir sur la question précédente, sur cette histoire des 30 euros qui se pose aux services sociaux de tous les hôpitaux, qu'au siège de la paix, on fait remonter également sur cette question. Parce qu'il y a effectivement ce que vous proposez, on a une possibilité de budget, on a 23 000 euros, on règle tout ça. Nous, l'aide financière qu'on peut avoir au service social de Saint-Louis, c'est 2400 euros. Donc ça fait déjà beaucoup moins de patients. Mais je veux dire, tout est cloisonné. Si on accepte de faire ça, de prendre en charge sur évaluation sociale les 30 euros, bon, déjà, on va limiter le nombre de personnes qui vont pouvoir en bénéficier par rapport à l'ensemble des besoins. Mais je veux dire, la sécurité sociale va se dire très bien, c'est payé, il n'y a pas de souci. Alors que si on résiste à ça, justement, nos directeurs d'hôpitaux, et je parle sous contrôle de mon directeur qui est assis ici au premier rang, si tous ces patients se trouvent en créance irrecouvrable parce qu'ils sont quand même acceptés aux urgences, ils sont quand même admis, et c'est l'honneur de l'hôpital public, et c'est ça aussi qu'il faut défendre aujourd'hui, je pense que c'est une manière de faire remonter les choses, et nos directeurs d'hôpitaux et les ARS qui sont ici dans la salle, dont la mission, c'est aussi la précarité, et il y a plusieurs personnes des différentes ARS de France qui sont là, qui entendent ce discours. Je veux dire, c'est tous ces gens-là qui vont nous aider à faire remonter les choses. Parce qu'évidemment, le problème, il est politique. Mais alors, si on continue de colmater comme ça en se disant, ben, on prend en charge, et puis comme ça, ben, ça se voit pas, et puis ceux qui n'auront pas droit, ben, tant pis. C'est pas comme ça qu'on va faire remonter les choses. Donc si aujourd'hui on est là, c'est bien pour discuter de toutes ces questions-là et d'essayer de les faire remonter. Alors, comme dit Régis Aubry, c'est vrai que ça ne va pas se faire en deux minutes. Ça, c'est clair. Mais c'est un vrai problème de fond et je pense que là, il faut résister.
Alors, puisque Jackie Platon est à ma droite, il n'y a plus la grosse pendule qui se balade devant nous toute seule. Il est 13h, je vous propose une dernière question de Pierre-Henri Bréchat qui attend patiemment ma bonne étudiante avec son micro.
Merci Grégoire.
Donc on te donne la parole, si tu veux bien, et excuse-nous pour les frustrations collectives, ce sera le mot de la fin.
Peut-être juste un complément. Parmi les alliés qu'on a, il y a la population aussi. Quand Régis Aubry parle des conférences régionales de santé et de l'autonomie, qui est un espace de discussion, la population peut avoir son mot à dire. Surtout que depuis 2002, avec la loi sur le droit des usagers, la démocratie sanitaire ou de la santé ou participative peut agir. Prenons un exemple récent. Par exemple, en Franche-Comté, les représentants d'associations d'usagers ont voulu demander quelles étaient les priorités de santé voulues par les citoyens. 50 propositions ont été faites au sein d'un questionnaire qui a été publié par 18 revues locales et régionales. Il y a eu 1000 personnes qui ont répondu. C'est le meilleur score mondial sur ce genre d'exercice-là. Il y a 3 résultats importants. Le premier, c'est que les gens ne veulent pas tomber malade. Il faut investir les déterminants de la santé. Et puis s'ils tombent malades, ils veulent un hôpital où il y a du monde, avec des professionnels qui peuvent prendre en charge la globalité de leurs attentes. Ils veulent aussi une assurance maladie qui puisse financer cet ensemble-là. Et l'autre résultat important, c'est qu'ils sont solidaires. Ils veulent que le système puisse être ouvert à tout le monde. Voilà un résultat, me semble-t-il, qui peut donner espoir à certains.
Alors, La pendule donc, qui reprend vie me dit qu'il reste encore du temps pour une ou deux petites questions.
Moi, je voulais apporter une précision parce que tout à l'heure, quand tu en viens à parler de l'environnement que vous avez effectué, en particulier si vous êtes en chirurgie, il y a quand même un dispositif circulaire qui dit qu'on peut hospitaliser en urgence des patients qui présentent des pathologies graves. Et on le fait régulièrement, il suffit que le médecin fasse un certificat médical disant que c'est une pathologie grave qui nécessite des soins urgents. Et les hospitalisations peuvent avoir lieu. Donc, on ne doit pas se.
Oui, mais pas pour les personnes sous visa. Sous visa, c'est pas possible. Non, mais il ne faut pas confondre les choses. Les personnes, elles sont hospitalisées, même si elles sont sous visa, même si elles ont un certificat d'urgence, mais il n'y a pas de prise en charge.
Il reste 50 questions. Des patients en situation irrégulière, donc je répondais à cette question-là. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui existe, qui est encore pas très bien connu, et en particulier qui n'est pas connu dans les structures privées, puisqu'il y a quand même des patients qui passent par des structures privées, je tiens à le dire, qui payent énormément. Il y a pas plus tard que la semaine dernière, un patient est arrivé avec une pile d'IRM, etc., alors qu'il aurait très bien pu, il venait d'un hôpital privé, il a tout payé, alors qu'il rentrant dans un hôpital public, il aurait pu être pris en charge, parce qu'il s'agissait d'une infection par VIH. Donc voilà, ça veut dire qu'on a une mission d'information aussi auprès des patients et auprès des familles qui viennent, et en particulier qui viennent aux urgences pour des pathologies graves. Et la deuxième chose, moi je suis tout à fait d'accord, il s'agit de problèmes politiques, mais je suis contente que, pour ma part, en tant que médecin, puisque je suis médecin, avant tout, quand je suis face à un malade, je suis dans un problème individuel et je fais mon travail. Mon travail, c'est de faire des soins et de tout faire pour que les soins soient faits. Le coût des soins, j'allais dire, ce n'est pas mon problème. Si ce patient a des problèmes graves de santé, je dois tout faire pour qu'il soit soigné. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de garder ça en tête. Nous avons, en tant que médecins, tous, en passant notre corps à prêter serment, il y a le serment d'Hippocrate qui existe toujours à ma connaissance, à moins qu'il ait changé, et qui dit que nous devons soigner toute personne qui en a besoin, quel que soit ses moyens, sa couleur de peau.
Oui. S'il vous plaît, par respect, vous avez de la personne qui va poser la secousse, la dernière question, même si on a les estomacs qui gargouillent. Comme dans les amphis de première année, je vous demande de faire silence avant qu'on pose la question, on va voir si ça marche mieux.
Bruno de Goyer, médecin à la place de Chambéry, excusez-moi.
Donc il y aura deux questions, on n'a pas fini. Voilà.
Mais fallait peut-être que je conclue parce que c'est en relation avec le collectif PASS. Du coup, s'il y a les deux questions, vous pouvez peut-être y aller avant.
Alors, honneur aux dames, et promis après vous concluez et on arrête.
Moi, c'est une question de Pierre-Mongis Aubry concernant en fait l'avenir des PASS. Quand tout à l'heure on parlait de certains idées de la PASS, les PASS sont un dispositif, donc les PASS, ça devient une structure. Moi, je me pose la question, et pas particulièrement, je pose vraiment l'opinion de M. Aubry suite à la présentation qu'il nous a faite. Est-ce que l'avenir des PASS n'est pas ce qui est devenu en fait aujourd'hui l'hôpital public et qui ne sera plus demain, à savoir que si on se rappelle, il y a quelques siècles, l'hôpital servait à fermer les lépreux, les galeux, donc il ne voulait pas. Aujourd'hui, les PASS soignent des gens qui sont en précarité et qui sont aujourd'hui mineurs, mais qui semblent devenir de plus en plus fréquents. Donc est-ce que notre question est, non, est-ce que la question, est-ce que poser la question, dire est-ce que les PASS ne sont plus qu'un dispositif mais un centre de soins, en rejoignant aussi ce qu'a dit le docteur Bréchard, faire une évaluation globale du coût de la prise en charge d'un patient, enfin bref, faire toute une étude pour, voilà, la question, en fait, c'est une réflexion sur l'avenir des PASS dans le système de santé en France et ailleurs, dans le plan de santé, on va avoir le plan du docteur. Merci.
En vous écoutant, je me transporte 15 ou 20 ans avant, lorsqu'on parlait des soins palliatifs. On avait, à mon avis, à peu près le même regard porté, la même indifférence, la même ignorance superbe d'une réalité qui crevait les yeux de tout le monde, entre guillemets. Je pense qu'aujourd'hui, ce que vous voyez, ce que vous vivez, ce que nous vivons au niveau des permanences d'accès aux soins de santé, doit, à mon avis, provoquer ce même type de mouvement collectif. Hein, c'est vraiment la nécessité d'un regroupement, je pense que c'est aussi le sens de cette journée, pour faire émerger. C'est pas en contradiction à ce que disait le confrère précédent, mais pour faire émerger la dimension politique de cette question, dans cette question éthique. Et je pense que il y a un avenir des PASS, et s'il n'y en a pas d'avenir, c'est l'avenir de notre société qui est posé. Donc il repose sur nos épaules une certaine responsabilité, c'est de témoigner. Nous voyons des choses qui sont scandaleuses. On a vu avec le témoignage de cette dame du Pas-de-Calais, combien on peut être choqué, mis à mal par des choses que nous voyons et auxquelles nous assistons sans pouvoir infléchir de façon respectueuse ces choses-là. Il faut donc, il reste une arme aux résistants, c'est de témoigner. Et ensuite de construire quelque chose sur ces témoignages en ayant une prise de recul qui est nécessaire, parce que nous travaillons beaucoup dans cette question de l'émotion aussi, en ayant une prise de recul autour de tout cela. Je redis qu'à mon sens, cette réunion-là doit être fondatrice d'une réflexion qui, à mon avis, aboutira peut-être à une dynamique de programme de développement du respect de la personne. Enfin voilà, un beau programme de santé publique.
Peut-être pour la conclusion.
Oui, donc Bruno de Goyer, des médecins à la PASS de Chambéry. D'abord, moi, je voulais remercier les organisateurs et d'avoir pris cette initiative et d'avoir nous avoir rassemblés pour pouvoir débattre. Hein, donc vraiment, je voulais remercier. Néanmoins, j'aurais aimé qu'il y ait un débat à un moment donné sur la façon de se regrouper. Donc sur l'association collective PASS, vu de certaines régions, j'y mène certaines, hein, pas de toutes, hein, on se dit qu'il y a plusieurs manières de se regrouper, de telle façon à être plus fort. On a parlé ici de l'échelon régional notamment, vous avez dit d'investir les ARS, les conférences régionales de santé. En ce qui nous concerne en Rhône-Alpes, c'est vrai que c'est cet échelon-là qu'on a investi depuis un moment. Et donc, c'est sûrement pas le lieu de débattre là, on est trop nombreux, mais je voulais quand même poser cette question, comment, en termes organisationnels, sur une représentation nationale, est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour être effectivement plus fort et faire avancer un peu les idées? Il faudrait peut-être qu'on ait un espace là de discussion. Voilà, j'ai reçu hier, vous êtes certainement peut-être avoir reçu un mail de la PASS de Toulouse, je sais pas si Toulouse est là. Est présent ou pas, qui s'est très fortement positionné sur cette question-là. C'est ce que pense Toulouse, hein. On n'a pas discuté avec eux de cela, mais je pense que ça mérite discussion en termes d'organisation.
Enfin, ce qu'on se disait, c'est qu'effectivement, il faudrait probablement créer une fédération des collectifs, une fédération des associations qui sont déjà montées. Et c'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble, puisque nous on démarre, mais qu'il y a des PASS et des régions qui se sont déjà bien développées, bien constituées en associations, et du coup on peut aussi se servir de l'expérience des petits camarades qui ont déjà commencé avant nous, mais probablement qu'il faudra faire une fédération des collectifs PASS.
Déjà vous pouvez adhérer au collectif.